Si vous pouvez fermer les micros en attendant. Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Je suis Mathias Pierre, responsable de l'unité départementale de
Non, c'est
l'Isère
bien.
pour la
En tout cas, je leur ai
DRL.
bien dit que le nettoyage avait été fait. Ils sont contents de la réactivité qu'on a eue.
Monsieur Raoul, qui a son micro d'allumé.
Oui. OK. À plus tard.
Il y en aurait plus, peut-être ça. Bon, je pense que Monsieur Raoul a dû raccrocher. Merci. Donc je reprends. Donc je suis Mathias Pierre, donc le directeur de l'unité départementale de la DREAL. Donc je suis accompagné de Monsieur Fréry et de Corinne Thiévent, donc de la DREAL. Voilà, je pense que vous me voyez. Merci à tous. Je commence par remercier l'équipe projet, donc Corinne et Julia, pour l'organisation de cette commission. Je remercie Monsieur Fréry qui a accepté de reprendre la présidence de la commission industrie du PPA. Et merci encore pour votre implication. L'industrie, en fait, c'est un secteur. Alors déjà, la commission, vous avez vu, elle est partagée. La gouvernance a voulu être très ouverte. C'est une volonté de la présidence, la préfète de région, qui date de 2021-2022 à peu près, ben, au moment de l'élaboration, où elle a souhaité finalement que les commissions et les différents groupes de travail soient animés par l'ensemble des partenaires d'un territoire. Et voilà, ça illustre le fait que c'est pas ce document d'un PPA, c'est un document de territoire, c'est pas un document de l'État qui s'impose comme ça de façon unilatérale. Donc encore merci pour votre implication à tous. Alors l'industrie, c'est un acteur historique de la qualité de l'air. Le premier PPA qui a maintenant, qui doit avoir une trentaine d'années sur l'agglomération, était exclusivement tourné vers l'industrie. 20 ans? 20 ans. Et bon, forcément, depuis cette vingtaine d'années, on a compris les connaissances sur l'impact sur la santé, sur l'environnement, de la pollution atmosphérique a quand même largement évolué. Et on s'est effectivement rendu compte que c'était pas qu'une affaire d'industrie, mais que tout le monde était concerné, et tous les contributeurs devaient être autour de la table, ce qui a conduit le PPA 3 approuvé en 2022 finalement à s'intéresser à l'ensemble des secteurs d'activité, et notamment le résidentiel et la mobilité. Voilà. Après, il n'empêche que l'industrie reste un acteur majeur sur le sujet de la qualité de l'air. Et c'est aussi pour ça que c'est important de tenir cette commission pour qu'on puisse partager les différentes actions qui ont été réalisées et qui sont prévues au PPA 3 qui arrive maintenant sur sa phase finale puisque le PPA 3 couvrait la période 2022-2027 et qu'on va devoir, et puis Corinne vous le présentera, réviser ce PPA au vu finalement des nouvelles normes de qualité de l'air qui ont été approuvées par la nouvelle directive européenne. Voilà, je ne serai pas plus long, je vais laisser la parole et je vais partager avec vous, comme ça, à vous présenter un peu l'objet, le sommaire de la réunion. Hop. En principe, vous devez voir la présentation. Allez, et ben, je vous propose. Laisse la parole.
Merci. Merci, Monsieur Pierre. Bonjour à toutes et tous. Je suis Bruno Fréry, directeur environnement de la société Vicat pour la France. Je voudrais commencer par remercier les services de l'État, Madame Thiévent et Madame Froissart, qui ne sont pas Monsieur Pierre, pour sa bienveillante introduction, et Madame Thiévent pour la préparation de tout ce travail, parce que si un suivi au quotidien de cette Commission Industrie, c'est en grande partie grâce à elle et à son équipe. Je voudrais vous remercier aussi, vous, les participants, qui nous avez réservé un peu de temps dans vos agendas, sûrement chargés comme les nôtres. Donc, merci à vous du temps que vous nous accordez. Pour commencer, donc, quelques mots d'introduction avant la présentation. Alors, comme disait M. Pierre, on est à l'approche de la fin de la phase 3 du PPA, donc un PPA 3 qui va s'achever en 2027. Et à cette occasion, nous avons souhaité faire un bilan des actions associées au monde industriel Également, élargir le cercle géographique en invitant des parties prenantes, peut-être en dehors de la zone habituelle, Grenoble-Alpes-Dauphiné, puis avant tout de partage d'expériences et d'enrichissement mutuel. Faut-il rappeler que la qualité de l'air est un enjeu sanitaire de haute importance? Les services de l'ESTA estiment à environ 40 000 décès prématurés par an attribuables aux particules fines, par exemple. D'autres chiffres, 7 000 décès supplémentaires liés aux émissions de dioxyde d'azote, des effets multiples sur la santé, l'agriculture, la biodiversité. Après, ces premiers mots qui sont un peu inquiétants, je pense qu'il faut évidemment saluer le travail accompli. Comme disait M. Pierre, depuis 20 ans, la qualité de l'air s'est nettement améliorée en France, comme en Auvergne-Rhône-Alpes. Hormis l'exception notable de l'ozone, les concentrations des principaux polluants réglementés ont diminué et les normes européennes actuellement en vigueur sont aujourd'hui presque partout respectées, comme le montre le graphe que vous voyez à l'écran actuellement. Les industriels n'y sont évidemment pas étrangers. Toutefois, de nouveaux enjeux sanitaires et réglementaires sont apparus. La nouvelle directive européenne sur la qualité de l'air, adoptée fin 2024, prévoit à l'horizon 2030 des valeurs limites réglementaires environ 2 fois plus strictes que les seuils actuels, en particulier pour les PM2,5 et NOx. Bon. Notez que les recommandations de l'OMS restent dans tous les cas, largement dépassé pour les particules fines, et l'ozone ne manque pas d'évolution favorable, en grande partie liée à l'effet du changement climatique. Désormais, donc, dans ce contexte, une meilleure qualité de l'air repose sur une poursuite de l'amélioration continue qu'on voit encore une fois à l'écran, qui est le fruit d'un effort continu, et c'est très bien ainsi. Et cette amélioration, nous, elle repose sur tous les secteurs, hein. Comme disait M. Pierre, pas uniquement sur l'industrie. Elle repose sur les transports, sur le résidentiel, on parle du chauffage en particulier, sur l'agriculture, sur l'urbanisme et évidemment sur l'industrie aussi. Voilà, le PPA3 s'est inscrit dans cette logique de contribution, d'élargissement des contributions et peut-être du financement concerné. Il constitue un cadre d'action partagé maintenant visant à anticiper les exigences futures. Voilà. Donc, nous allons. Donc, le plan de cette matinée, c'est que nous avons. Madame Thiéman va vous rappeler le contexte réglementaire, les objectifs du PPA3 2022-2027, ainsi qu'un bilan des actions associées aux industriels. Ensuite, je vous présenterai un exemple d'amélioration sur les émissions de poussière et de NOx dans notre cimenterie de Vicat Saint-Égrève. Et puis, Atmo doit nous présenter un dispositif. Positif pour accompagner le monde industriel dans son approche des émissions de polluants. Ce qu'on vous propose, c'est qu'après chaque partie, on vous invite à poser vos questions plutôt qu'à tout regrouper vers la fin pour essayer de répondre au plus possible, plus proche des informations partagées. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à Madame Thierry.
Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter pour ma part le contexte général du plan de protection de l'atmosphère Grenoble-Alpes-Dauphiné et on fera bien sûr un zoom sur le volet industriel et les actions spécifiques pour le monde industriel. Il y aura Monsieur Ferry imagera avec un zoom sur le site Vicat les progrès notables qui peuvent être réalisés dans cet esprit-là. On fera une petite présentation aussi avec une vidéo et un kit qu'on a constitué au sein du PPA avec notre commission communication pour montrer aussi quelles sont les actions individuelles qui peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air. Et du coup, dans l'industrie, c'est aussi un bon moyen de relayer ces informations aux salariés. Et puis pour finir, on aura une intervention d'Atmo sur les outils qu'ils proposent à disposition des entreprises. À la fin, on garde un petit temps d'échange, mais on s'est dit que c'était mieux, effectivement, de le faire à la fin de chaque partie, chaque volet, pour que ce soit plus concret pour vous. Donc, petit rappel de ce qu'est un plan de protection d'atmosphère. Donc, c'est un plan qui est obligatoire, comme fixé dans le code de l'environnement, pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants et pour les zones où on sait qu'il y a un dépassement ou un risque de dépasser les valeurs limites réglementaires. Ces plans sont élaborés à l'initiative du préfet, en concertation avec les acteurs du territoire, si on veut que ce soit appliqué et applicable. Ça prévoit un certain nombre d'actions ou de défis pour ramener les concentrations sous les seuils réglementaires dans des délais les plus courts possibles. Donc ça fixe un certain nombre d'objectifs à atteindre, j'y reviendrai après. Et ça doit bien sûr respecter la réglementation en vigueur. Donc ce plan, il est approuvé par le préfet, mais ça repose pas que sur le préfet. Ça associe bien sûr les services de l'État, les élus, les experts techniques, les associations et tout le monde économique, dont les industriels. Ils sont prévus sur une durée de 5 ans. Donc là, le PPA3, c'est sur la période 2022-2027, et ça liste un certain nombre de mesures à prendre qui sont construites collectivement. Typiquement pour le PPA3 qui va sur la période 2022-2027, on a pris à peu près une année de co-construction des actions pour que ce soit le plus représentatif possible et le plus efficace aussi. Donc un petit rappel quand même sur les PPA en Isère. Donc comme l'a dit Mathias Pierre, on en est au troisième. Le premier PPA s'est étalé sur la période 2006-2011. Ça concernait quasiment exclusivement le monde industriel et l'objectif c'était d'améliorer les rejets en dioxyde de soufre. Ça a été très efficace puisque aujourd'hui on n'est plus en contentieux, il n'y a pas de dépassement des valeurs limites réglementaires. C'est plus un sujet prioritaire sur notre territoire. Le deuxième PPA qui s'est étalé sur la période 2014-2018, c'est un peu a commencé à s'élargir. Donc là, on a conservé l'industrie, on a intégré le résidentiel, tertiaire et les mobilités, et puis aussi tout ce qui était contrôle. Et dans le PPA3, donc notre PPA actuel, on a élargi à l'agriculture qui était vraiment le nouvel entrant, et on a aussi essayé de faire une commission spécifique sur la communication, puisque c'était un des points faibles du PPA. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à chaque fois, un plan, donc ça s'étale sur 5 ans et c'est évalué à la fin. Donc ça, c'est une grosse partie d'action pour tout ce qui est quantitatif par ATMO. Et puis pour le qualitatif, bah, par les pilotes du PPA ou un certain nombre d'acteurs du territoire qui peuvent nous aider à évaluer ça. Donc c'est très important aussi d'avoir cette évaluation parce que ça permet de construire le plan suivant. Donc le PPA2, quand il avait été évalué, on avait bien mis en avant que la communication était enfin, trop faible, et que du coup, si on voulait induire des changements de comportement chez les individus, il fallait qu'on améliore la communication. Alors, pas forcément sur qu'est-ce que c'est qu'un PPA, parce qu'en vrai, si les gens savent pas ce que c'est pas très grave, mais sur toutes les actions qui composent le PPA. Pour que ce soit très clair, en fait, pour le département d'Isère, il y a deux PPA qui s'appliquent. Donc, il y a celui de l'agglomération grenobloise qui regroupe 8 EPCI. Donc la métropole de Grenoble, le Grésivaudan, le Pays Voironnais, le Trièves, Saint-Martin, Vercors, Villers-Communautés, Val-du-Dauphiné, Bièvre-Est et Bièvre-Isère. Et ben, tous les industriels de la vallée du Rhône sont aussi concernés par le PPA, notamment Vienne-Condrieu et entre Bièvre et Rhône. On a quand même co-construit, en tout cas pour les actions industrie, on les a co-construits avec nos collègues de la DREAL du département du Rhône. Donc c'est vraiment dans le même esprit et à peu près les mêmes fiches actions et les mêmes objectifs. Donc pour ce PPA3 qui nous concerne là, bah on a aussi élargi le spectre. Donc maintenant on a des objectifs pour les particules fines, pour le dioxyde d'azote, pour les COV, pour l'ammoniac et pour le... Donc un PPA, on prend quand même du temps pour le construire. On essaie de tirer profit des PPA d'avant, de qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas marché. Il y a une évaluation d'ATMO et on s'appuie aussi bien sûr sur les contributions des différentes activités dans les émissions polluantes. Donc ça, c'est un graphe d'ATMO, mais qui est quand même assez parlant, puisqu'on voit bien que bah, pour l'ammoniac, la source prioritaire, c'est l'agriculture. Pour les particules, bah, c'est essentiellement le chauffage bois. Un petit peu aussi l'industrie et un petit peu aussi le transport. Pour les COV, c'est essentiellement l'industrie et le résidentiel. Pour le dioxyde de soufre, c'est plutôt l'industrie, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus d'objet de dépassement réglementaire. Et puis qu'est-ce que j'oublie? Non, bah pour les NOx, évidemment, c'est essentiellement le transport et l'industrie. Donc pour construire un PPA, bah on fait d'abord un état des lieux du territoire, on définit un périmètre. Donc c'est vrai que là, on aurait pu prendre que le Y grenoblois, mais on a quand même souhaité élargir bah aux autres PCI aux alentours d'une part, parce qu'il y a quand même de la mobilité et des échanges entre les EPCI, et aussi parce qu'il y avait bah, un certain nombre de dépassement potentiel des valeurs réglementaires sur les autres PCI autour du Y Grenoble. On définit ensuite des objectifs, on définit des actions et ces actions, elles sont modélisées par Atmo, qui pourront dire deux mots tout à l'heure si besoin, et validées ensuite par un arrêté préfectoral qui lance le PPF. Donc voilà un peu comment ça se traduit, comment c'est construit un PPE. Donc c'est quelque chose d'assez lourd à mettre en place, mais on essaye de répondre le mieux possible à tous les enjeux du territoire sur tous ces secteurs-là. Ça me paraissait quand même important de vous rappeler les exigences réglementaires pour la qualité de l'air, parce que dans le monde industriel, on a beaucoup de textes, hein, beaucoup d'arrêtés ministériels, beaucoup de décrets, beaucoup d'exigences aussi. Mais quand on va parler de qualité de l'air plus globalement, nous, pour construire notre PPA, on va s'appuyer sur d'autres valeurs réglementaires. Donc tout d'abord, on est obligé de respecter les valeurs limites en concentration dans l'air ambiant qui sont fixées dans le code de l'environnement pour 13 polluants. Et donc là, il y en a 6 qui sont à enjeu sur notre territoire du PPA, je les ai déjà cités tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment les valeurs limites réglementaires à respecter sur un territoire, sinon on est en dépassement et du coup derrière, il y a contentieux et il y a d'autres problèmes à gérer. On doit aussi respecter, donc ça c'est pour les concentrations. Ensuite, pour tout ce qui est niveau d'émission, on doit respecter ce qu'on appelle le PREPA, donc c'est le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques. Et donc lui, il fixe des objectifs par polluant à échéance 2020 et 2030 par rapport à 2005. Donc je vous donnerai tout à l'heure, on va pas forcément rentrer dans tous les détails, mais au moins ça vous fait une base de référence importante. Donc ça, c'est vraiment les valeurs obligatoires, valeurs limites en concentration et respect du prépa. Ensuite, on a des valeurs de recommandation de l'OMS. Donc ça, c'est des valeurs, vous allez voir, qui sont quand même très strictes, bien inférieures aux valeurs limites réglementaires, mais sur lesquelles on s'est quand même appuyé, nous, quand on a construit notre PPA 3. Il y a aussi la loi climat et résilience, vous avez dû en entendre parler par ailleurs, qui est entrée en vigueur le 25 août 2021. Donc elle a renforcé le rôle de PPA et elle a demandé aussi que les mesures qu'on prenait dans les PPA tendent le plus possible vers les recommandations de l'OMS. Il y a un gros gap, hein, entre les valeurs limites réglementaires et les valeurs de recommandation de l'OMS, c'est quasiment du simple au double. Mais cette loi climat et résilience, elle a commencé à demander à ce que les PPA nous permettent de tendre vers ça. Ensuite, il y a un plan national biomasse qui, lui, on sait hein, que le chauffage bois, c'est responsable de beaucoup d'émissions des particules. Et donc, il a demandé une réduction de 100% des émissions de chauffage bois entre 2020 et 2030. Et puis, ça, on en a parlé un petit peu en introduction, mais il y a une nouvelle directive européenne qui est entrée en vigueur le 11 décembre 2024, doit être traduite en droit français sous 2 ans, qui, elle, a fixé des valeurs limites à respecter au 1er janvier 2030, qui sont notablement plus exigeantes que celles d'aujourd'hui. Je vous ai fait après un petit graphe pour vous montrer à peu près de quoi on parle. Et puis bien sûr, pour le monde industriel, vous êtes tous concernés par un certain nombre de gros industriels par la directive IED. Et donc, il y a une nouvelle directive IED 2.0 qui entre en vigueur le 4 août 2024. Et vous verrez que finalement, tous ces textes, ça se recoupe quand même, puisque cette nouvelle directive IED, elle va vraiment viser les valeur basse des fourchettes réglementaires, et c'est ce que nous, on a commencé à faire dans notre PPA. Voilà, donc là, je vous ai juste mis pour rappel les objectifs de réduction hein, qui sont fixés dans ce que je viens de dire, le PREPA. Donc ça, c'était des objectifs de réduction pour tous les polluants à horizon 2030. Donc nous, on s'est inspiré de ça pour construire notre PPA 3. Et vraisemblablement, il va y avoir un PPA 4, puisqu'il y a des nouvelles exigences réglementaires. Donc on est exactement dans ce domaine-là d'obligations réglementaires. Et puis là, j'ai fait un petit tableau de synthèse qui est quand même intéressant d'avoir en tête. C'est par type de polluant. On vous a mis, donc, par exemple, si on prend l'exemple du dioxyde d'azote, donc les valeurs réglementaires européennes actuelles et françaises, la valeur limite, c'est 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Le seuil OMS 2021, c'est 10 microgrammes par mètre cube. Donc vous voyez que les seuils OMS sont toujours quand même très exigeants. Et la nouvelle directive européenne de 2024 nous impose des seuils pour 2030 de 20 microgrammes par mètre cube. Donc les valeurs limites réglementaires actuelles, elles vont être divisées par, pardon, les valeurs limites réglementaires applicables en 2030 vont être divisées par 2 par rapport aux valeurs réglementaires actuelles. Sachant qu'on sera quand même toujours un peu au-dessus des seuils OMS 2021 qui sont quand même assez difficilement atteignables pour l'instant. Bon, là, je vous ai fait une petite, une petite, une, enfin, je trouve que Carte parle quand même assez bien. Donc, Atmo nous avait produit ça en 2024. Donc, en gros, si on par type de polluant, sur le côté gauche, vous avez la carte réglementaire actuelle. Donc, on voit par exemple que pour le NO2, ben, on respecte bien les valeurs réglementaires actuelles. Et donc là, Atmo a fait une transposition. Si on appliquait les valeurs limites obligatoires pour 2030, et donc on voit que bah, ça va poser un certain nombre de problèmes, notamment là pour le NO2, bah, le nom des axes routiers. On voit bien là on est en rouge quand on va être soit proche, soit dépasser les valeurs limites réglementaires, orange et rouge. Donc ça montre que bah, ok, on a fait beaucoup de progrès, hein, ça il faut quand même en avoir conscience. En 20 ans, il y a une nette amélioration des émissions et de la qualité de l'air. Par contre, la réglementation, elle évolue aussi, et la réglementation européenne de 2030, ben, elle est beaucoup plus sévère que ce qui était applicable aujourd'hui, et donc il va falloir continuer les efforts. Pardon. Donc on a les mêmes courbes pour les PM10, les PM2,5. Donc là, c'est encore plus notable. Hein. Pour les PM2,5, c'est vraiment un sujet qui va nous occuper fortement dans les prochaines années. Et puis pour l'ozone, on l'avait dit tout à l'heure, c'est le seul polluant qui a augmenté les dernières années. Et là, on voit que ça va être encore plus problématique avec les nouvelles exigences réglementaires. Voilà, donc comment on a construit nos actions du PPA et surtout comment on a construit nos objectifs chiffrés. Donc Atmo, elle a fait une évaluation des actions qu'on avait précisées dans notre PPA en 2022, et donc elle a essayé d'évaluer les actions sous deux formes. En fait, ils ont défini un scénario 2027, ce qu'on appelle la dynamique territoriale, c'est-à-dire sans le PPA, et un scénario 2027 avec le PPA, pour voir bah, qu'est-ce que notre PPA allait nous amener comme gain. Donc c'est pas, on n'a pas évalué chaque action, hein, c'est souvent des actions qu'on a évaluées par bouquet. Donc pour les émissions, ben on a fait des comparaisons par rapport aux valeurs réglementaires du Prépa et de la loi climat et résilience. Pour les concentrations, vous allez voir, on s'est basé bien sûr sur les valeurs réglementaires, mais aussi on a essayé de s'approcher au mieux des recommandations OMS. Et on a bien fait, puisque la directive européenne qui est sortie en 2024, ben elle va aller de plus en plus vers ces recommandations-là. Et donc par rapport à ces objectifs qu'on s'est fixés fin 2022, qui ont été approuvés en l'état. Et ben par la préfète, par l'arrêté préfectoral, ben Atmo réalise des évaluations partielles chaque année pour voir ben, est-ce qu'on est dans la bonne dynamique, dans la bonne trajectoire, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on devrait peut-être réadapter. Ça, c'est quand même toujours intéressant de suivre ça, parce que finalement, 5 ans, ça paraît long, mais ça passe assez vite. Et donc, il y a beaucoup d'actions, hein. Vous verrez, il y a 32 actions dans le PPA. Donc, il faut qu'on arrive à ajuster au mieux et à prioriser aussi au mieux ce qui va faire gagner beaucoup et ce qui va être efficace. Donc là, je vous ai résumé, donc ça fait toujours un peu peur, mais les objectifs chiffrés du PPA Grenoble-Dauphiné, donc ça, c'est grâce à l'évaluation d'Atmo, par type de polluant. Donc là, sur la gauche, je vous ai mis les objectifs chiffrés, ce qu'on a prévu nous comme gain dans notre PPA par type de polluant. Donc par exemple, si je prends le NO2, notre objectif du PPA en chiffres, c'est moins 66% des émissions par rapport à 2005. Donc là, sur la droite, je vous ai mis des chiffres, c'est quand même plus parlant. Donc, ce qu'a évalué Atmo, les émissions en 2027 sans le PPA pour le NO2, c'est 5 875 tonnes. Et avec nos actions mises en place dans le PPA, on attend une réduction de 507 tonnes. Ça fait à peu près 10%. On a fait pareil sur les particules, sur l'ammoniac et sur le COV. Donc ça, c'est des gains chiffrés par polluant d'émissions qui sont attendus dans notre PPA. Et donc ça, Atmo a un travail régulièrement pour bah, suivre l'évolution de ces émissions-là. On a fait à peu près la même chose sur la concentration. Donc c'est si vous voulez plus de détails sur tout ça, je le dis aussi, si vous voulez tout le détail du PPA, on retrouve ça sur le site de la préfecture, sur le site de l'Adreal. Et donc sur l'évaluation, les objectifs chiffrés d'Atmo, il y a une annexe spécifique, c'est l'annexe 5, où tout est détaillé. Comment on a fixé ces objectifs-là, est-ce que c'est assez ambitieux finalement? Est-ce qu'on va être vraiment en galère en 2027 parce que on sera très très loin des objectifs réglementaires. Donc, l'objectif de cette slide-là, c'est pour vous montrer que dans notre PPA, les valeurs limites réglementaires, je les ai repris là par polluant, parce qu'on ne les retient pas forcément toutes. Hein. Donc, pour les NOx, c'est 40 microgrammes par mètre cube en concentration moyenne annuelle. Pour les PM2,5, 25, et pour les PM10, 40. Ça, c'est des valeurs réglementaires actuelle. Donc là, l'intérêt de ce graphe, c'est qu'on vous montre que les valeurs limites réglementaires 2030, eh ben, elles sont bien en dessous. Hein. donc 20, 10, 20, et OMS 2021, c'est encore plus exigeant. Ce graphe-là, donc il est un peu compliqué à comprendre, je le conçois, mais on a voulu présenter tous les polluants sur un seul graphique, donc déjà c'est pas les mêmes échelles, c'est pas très évident à s'y repérer, mais dites-vous que la petite barre grise, en fait, c'est les valeurs relevées par Atmo en station sur la rocade sud en 2022. Donc on était sortis du contentieux. Contrairement à Lyon, on était déjà sorti du contentieux sur les valeurs en station. Et sur le Rhône, c'est les concentrations moyennes en zone PPA. Et donc les petites barres rouges que vous voyez à chaque fois, c'est les objectifs qu'on s'est fixés au PPA. Donc vous voyez qu'on est, selon les types de polluants, on visait déjà les valeurs limites réglementaires. Par exemple, si je prends les PM10, on était bien en dessous des valeurs limites réglementaires actuelles et on ne pouvait pas atteindre dès 2027 les valeurs limites réglementaires 2030, mais on était à peine au-dessus. Bonne nouvelle quand même, je vous montre, ça c'est Atmo qui nous a juste sorti les chiffres, mais les valeurs station en 2025 qui ont été du coup sur l'année en moyenne en 2025, on voit que pour le NO2, on est à 26, pour les PM10, on est à 16, donc pour une nouvelle valeur limite réglementaire à 20, et pour les PM2,5, on est à 10. Et donc on flirte avec les valeurs limites réglementaires. Prisca, t'es là ou?
Oui, je suis là.
Super. Est-ce que je vais te passer la parole peut-être pour ça, si tu veux compléter? Alors tout ce qui est évaluation, enfin vraiment l'évaluation quantitative du PPA, même la manière dont on a construit ce PPA, c'est aussi avec un soutien très fort d'Atmo, hein, parce que c'est nous on a fait un bouquet d'actions. Et en fait à chaque fois ils ont évaluer, quantifier ce qu'on allait gagner en termes d'émissions et en termes de concentration. Donc là, hier, il y a eu une conférence de presse organisée par Atmo Aura hier après-midi où ils ont présenté le bilan de l'année 2025, un certain nombre de chiffres. Donc si tu peux juste dire un petit mot de celui-là.
Oui, merci Corinne. Du coup, là, ce tableau-là vous présente des données d'exposition de la population vis-à-vis des seuils réglementaires et des seuils OMS. Donc finalement, ça illustre la proportion de la population qui est exposée, qui respire des concentrations en polluants qui sont supérieures à ces valeurs limites. Donc ce qu'on peut retenir sans rentrer forcément trop dans le détail, c'est que pour le NO2, donc actuellement, hein, il y a moins de 1% de la population qui est exposée à des valeurs réglementaires qui s'appliquent aujourd'hui. On devrait rester dans cet ordre de grandeur-là avec la future directive européenne qui s'appliquera en 2030. En revanche, pour le NO2, hein, on a quasiment la moitié de la population en Auvergne-Rhône-Alpes qui est exposée à des seuils supérieurs à ceux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Donc on est sur une problématique sanitaire encore bien présente. Pour les particules fines PM10, la situation est un petit peu moins problématique, vu qu'on a une proportion plus faible hein, de la population qui est exposée à des seuils supérieurs à ceux de l'OMS, donc à 16%. Donc c'est pas négligeable non plus. Pour les PM2,5, là, la problématique est encore plus élevée. Hein, donc, PM2,5 qui sont plus problématiques pour la santé que les PM10, puisqu'elles sont plus fines et qu'elles pénètrent plus profondément dans l'organisme. Donc, là, on s'attend d'une part à une problématique réglementaire, avec un pourcentage de la population qui sera, donc, de 4% qui sera exposée à des concentrations plus élevées que la valeur réglementaire 2030 et quasiment la totalité de la population en Auvergne-Rhône-Alpes qui est exposée dès cette année et on espère que ça sera moins le cas plus tard à des seuils supérieurs à ceux recommandés par l'OMS. On est dans la même situation pour l'ozone, une vraie problématique sanitaire avec 100% de la population qui est exposée au seuil à des concentrations supérieures à celles recommandées par l'OMS. Donc là, ça vous illustre vraiment la problématique sanitaire qui est encore bien présente sur notre territoire.
Super, merci. C'est fraîchement présenté hier, donc ça me paraissait important de vous le partager aujourd'hui pour montrer que on a commencé par ça en disant oui, ça s'améliore tout ça, mais ceci étant, on va avoir des vrais problèmes. Donc on a encore besoin de travailler ensemble sur toutes les thématiques qu'on va vous présenter. Donc pour ça, je passe assez rapidement, mais bon, c'est quand même intéressant de vous dire que ce plan, ce PPA, après je vais vous lister rapidement les actions et je citerai quelles sont les actions phares, parce que finalement c'est un plan ambitieux où il y a 32 actions, 104 sous-actions. Donc autant vous dire que heureusement, Atmo nous a aussi aidé à modéliser celles qui étaient avec une efficacité la plus forte en termes de gain d'émissions ou de diminution des concentrations. Donc on a fait plusieurs commissions thématiques. Donc une industrie, donc c'est aujourd'hui la réunion annuelle avec comme président, pardon, Monsieur Fréry, le directeur de Vicat, enfin, directeur environnement de Vicat. Monsieur Pierre, qui est lui dans tout ce qui est transversal et contrôle, sachant que dans les contrôles, il y a une grande partie quand même qui sont assurées par l'ADREAL, donc ça nous paraissait plutôt assez légitime et que ce soit Monsieur Pierre qui préside cette commission. Pour la mobilité, c'est Monsieur Laval, le président du SMAG. Pour l'agriculture, donc c'est Monsieur Guérin, vice-président de Val du Dauphiné. Pour le résidentiel tertiaire, c'est Monsieur Luc Raymond. Et pour la communication, c'était Madame Senna Tiempo, sachant qu'avec les élections, on va avoir un certain nombre d'évolutions de ces présidences. En tout cas, on a vraiment voulu que ce soit, enfin, c'est un plan qui est présidé par Madame la préfète, mais ensuite ça s'appuie sur différentes commissions thématiques et du coup des acteurs autres que purs services de l'État. Donc ça, c'est les commissions thématiques. On a l'équipe projet, effectivement, qui nous permet de valider un certain nombre d'échéances ou de décisions importantes au sein de notre plan. Et donc, on s'engage à ce qu'une fois par an, il y ait une commission plénière, ce qu'on appelle le COPLER, où on vient présenter l'avancée de toutes les actions, les difficultés qu'on a pu rencontrer et les résultats le plus possible quantifiés de ce plan. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails, hein, mais c'est juste pour vous montrer que pour l'industrie, donc c'est un des pans de ce plan. Il y a aussi des grosses actions dans le résidentiel tertiaire, dans l'agriculture, dans la mobilité urbanisme, la communication et le transversal. Le résidentiel tertiaire, l'action phare, ça va être autour du chauffage bois. Donc il y a pas mal d'arrêtés d'interdiction qui ont été pris ces dernières années pour faire évoluer les habitants vers des chauffages bois performants. En mobilité urbanisme, il y a un certain nombre de mesures hein, qui visent directement à la circulation routière, même si vous avez tous entendu parler un peu des débats autour de la ZFE, quoique hier on a eu une petite nouvelle un peu qui allait plus dans le sens de cette ZFE, sachant que nous, c'était une action phare du PPA et dans l'évaluation qu'a fait Atmo en 2022, on l'avait intégrée comme une action effective. Donc, on a besoin aussi de cette action pour arriver à l'application réelle des objectifs qu'on s'était fixés en 2022. Mais il y a aussi plein d'autres mesures, hein, comme enfin, du changement de comportement, du covoiturage, d'autres types de mobilité,
Ça
course au vélo, passage à l'électrique, voilà. Donc il y a pas mal d'autres mesures aussi. La communication, on a fait pas mal aussi d'informations de communication auprès du grand public. Le transversal des contrôles, j'y reviendrai un petit peu après. Et puis ce qui nous concerne le plus, l'industrie. Donc avec différents défis. Donc le premier, c'était réduire les émissions des gros émetteurs industriels. Donc ceux-là, ils sont visés par la directive européenne IED. Donc on a défini un certain nombre d'actions. Je vais rentrer un peu plus dans le détail après pour vous dire où on en est. Réduire aussi les émissions de particules et de NOx des installations de combustion. Et puis, un autre défi, c'était réduire les émissions diffuses de particules des chantiers, carrières, plateformes de concassage, recyclage, cimenterie, producteurs de choux. Donc, on a trois grandes familles d'actions dans notre commission industrie. J'en ai déjà dit pas mal de mots, mais c'est là, c'était pour illustrer un peu les actions phares qu'on a dans le PPA. Donc, encadrement des émissions du chauffage bois. On fait pas mal d'interventions là-dessus aussi avec les collectivités, hein. Il y a des primes d'aide pour remplacer ces installations qui sont soit anciennes, soit pas assez performantes. On a aussi fait un gros travail pour la réduction des émissions de particules sur un certain nombre de sites. J'y reviendrai après. Il y a un certain nombre aussi d'actions autour de l'exposition des habitants à proximité de la 480. Il y a une étude qui a été faite par Atmo et dont les résultats vont être présentés à l'automne. On a aussi un certain nombre d'actions qui sont faites par les associations. Par exemple, il y a eu la campagne Au Feu qui a été menée par FNE, France Nature Environnement, entre 2022 et 2024. La ZFE tout véhicule. Et puis, l'agriculture, c'est un nouvel entrant, hein, dans le PPA. Donc, on a démarré avec un certain nombre d'actions, notamment de formation ou d'information à la qualité de l'air dans les lycées agricoles. Je vais juste, par transparence aussi, vous montrer sur les actions industrielles. Donc, désolé, le slide est un peu trop rempli, mais c'est pour vous donner le détail des défis et des actions dans l'industrie, ça me paraissait quand même important de le faire. Donc pour les gros émetteurs industriels, donc ça concerne les sites qui sont soumis à la directive IED, pour les installations nouvelles, on demandait d'imposer les valeurs basses, les valeurs basses imposées dans les brefs en fait, en NOx, particules, COV pour les gros émetteurs, et pour les sites existants, c'était viser les valeurs basses. Vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle directive IED 2.0, c'est ce qu'elle va demander aussi, hein, de respecter, c'est même plus visé, c'est, pardon, c'est plus visé, c'est respecter les valeurs basses. Donc là-dessus, c'est des dossiers qui sont suivis au fil de l'eau par nos collègues inspecteurs, puisque les sites IED sont suivis par les inspecteurs de Réal, et donc on a à chaque fois cette préoccupation-là, hein, soit de viser, soit de fixer ces fameuses valeurs basses. Pour les actions de réduction des émissions de particules et de NOx des installations de combustion, donc on a eu un certain nombre d'arrêtés préfectoraux qui ont été pris en juillet 2023 pour les installations de combustion de différentes puissances, donc à la fois entre 1 et 50 mégawatts. Et puis aussi une étude petite chaufferie, donc pour celles qui sont inférieures à 1 mégawatt, qui a été réalisée par Atmo et dont les résultats ont été présentés à l'automne 2025 en commission. Pour l'objectif aussi, le défi de réduire les émissions diffuses de particules sur les chantiers, les carrières, les plateformes de concassage, etc. Donc là, il y a eu pas mal d'arrêtés préfectoraux qui ont été pris par mon collègue de l'Adréal ici, où on a imposé la nouvelle valeur limite des retombées atmosphériques totales qui était fixée à 350 mg par mètre carré par jour en moyenne glissante, au lieu de 500, je crois. Donc ça, tous ces arrêtés, ils ont été pris en 2024. Et puis on a aussi co-organisé avec mes collègues de Lyonnais et la FRTP une journée de sensibilisation à plusieurs thématiques, biodiversité, eau, mais aussi qualité de l'air, avec des ateliers, et on a pu échanger avec le monde du TP sur ces problématiques-là. Donc ces actions, ça avance. Ça avance aussi grâce que, pardon, grâce au volet transversal où on a pris comme engagement dans le PPA de faire des contrôles et d'aller sur le terrain pour vérifier l'application de ces nouvelles exigences. Et donc, il y a eu un certain nombre d'inspections qui ont été réalisées en 2024-2025. Donc, à l'automne 2025, on a fait une grosse opération de coup de poing pour les installations de combustion de puissance comprise entre 1 et 50 mégawatts. On est allé voir des sites qu'on n'allait pas forcément voir puisqu'on allait voir des sites soumis à déclaration. Donc, pour rappel, nous, les inspecteurs, on va sur les sites soumis à autorisation. Ceux soumis à déclaration, on y va soit sur plainte, soit sur accident. Là, on a coordonné ça c'est grâce à mes collègues inspecteurs, une grosse opération de coup de poing en octobre. Il y a eu 31 inspections réalisées sur ces sites-là, 9 arrêtés de mise en demeure et plusieurs demandes d'action corrective. On avait pris aussi l'engagement de faire des inspections dans les stations-service. Donc, on a fait ça aussi en 2025, 8 inspections stations-service qui se sont traduites par 2 arrêtés préfectoraux de mise en demeure, un arrêté préfectoral de prescription spéciale. Ça veut aussi dire que sur les autres sites, c'était correct et conforme, hein. Notre objectif, c'est pas non plus forcément de faire un arrêté préfectoral de mise en demeure, mais finalement, le contrôle, ça fait aussi un peu boule de neige parce qu'il y a d'autres sites qui nous ont appelés pour avoir des informations. Enfin voilà, ça permet de parler de la problématique et de s'améliorer collectivement. Et puis j'ai dit tout à l'heure du coup sur l'interdiction de volage à l'air libre, on a travaillé, enfin la FNE a fait vraiment une grosse campagne de sensibilisation, d'information sur ces thématiques-là. Ils ont aussi une exposition itinérante qui est à disposition. Enfin, il y a eu pas mal de choses de développer sur ces actions-là. Je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. On peut peut-être passer aux questions.
Oui.
Je ne sais pas si on a dans le chat,
Vous
j'ai
avez
pas
des
vu.
questions? J'ai vu une question sur est-ce que la présentation sera disponible sur le site du PPA.
Oui, on mettra sur volontaire, on mettra sur le site du SPI aussi. Et on a enregistré aussi parce qu'on a un certain nombre de personnes qui ne pouvaient pas participer et qui du coup nous ont demandé s'ils pourraient avoir accès au webinaire. Donc on diffusera ça un maximum. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Alors ça me paraissait quand même important de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un PPA, quelles sont les obligations réglementaires qu'on doit respecter et quels sont aussi les objectifs vers lesquels on veut tendre. Et c'est intéressant d'avoir suivi ça sur les 8 dernières années parce qu'on voit que finalement, on a bien fait aussi de s'inspirer pour nos actions des recommandations AMF 2021 puisque la nouvelle directive européenne qui est sortie fin 2024, elle va vraiment tendre vers ces valeurs-là. On aura un gros travail d'atmo qui va être fait fin 2026 ou dans l'année 2026 sur l'évaluation des actions. Donc là, je vous ai montré concrètement sur le terrain comment ça a avancé, les arrêtés préfectoraux qui ont été pris, les inspections réalisées. Il y a des choses qui ne sont pas forcément quantifiables, mais qu'on qualifiera quand même pour montrer le bon avancement du plan. Là, pour l'instant, on ne pouvait pas vous donner pour le bouquet d'actions industrie les gains directs de ces actions, parce que Atmo va faire ce travail-là dans l'année, mais dès qu'on les aura, on les partagera sans aucun problème.
Alors, question, est-il possible d'avoir la liste des entreprises contrôlées
Bien
pour
sûr.
pouvoir les accompagner si besoin?
Alors, les entreprises contrôlées, enfin, dans le cas, ça dépend si c'est dans le cadre de l'opération coup de poing. J'ai pas dit, mais en fait, ça fait 4 ans maintenant, on fait une lettre action de l'inspection. Pour valoriser un peu le travail de l'inspection dans le département de l'Isère. Et donc, cette année, sur l'édition qui est sortie en avril 2026, qu'on vous repartagera peut-être à l'issue du webinaire aussi pour ceux qui ne l'ont pas eu, on a fait un zoom sur le PPA justement et sur toute ce volet contrôle. Et donc, on a fait aussi un communiqué de presse sur cette opération coup de poing qui est sortie en avril. Sur le compte de la préfecture, on a été interviewé aussi par les journalistes et la liste des inspections, elle est publique, on pourra la partager, oui. Pas de souci là-dessus. Le risque de contentieux, en fait, c'est quand il y a, au tout début, j'ai montré quand il y a dépassement des valeurs limites réglementaires applicables sur notre territoire français, on peut avoir, ou aussi d'une directive européenne, on peut être en contentieux. Nous, on est sorti du contentieux, presque, si je me trompe pas, fin 2024. C'était sur la station Grand Boulevard où on dépassait la valeur limite réglementaire et on est sorti du contentieux il y a 2 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Oui. Donc contentieux, on peut pas être en contentieux par rapport à des recommandations OMS, par exemple, mais on est en contentieux par rapport à des valeurs limites réglementaires quand on les respecte pas. Donc c'est aussi pour ça que là, on est dans l'anticipation des futures valeurs limites réglementaires, mais on sait que ça prend quand même du temps pour initier sur un site industriel aussi, faire des investissements, faire des améliorations, ça prend aussi du temps. Dans les changements de comportement, c'est encore bien plus long. Mais c'est bien d'être en anticipation et de pas se dire, là, s'il y a dépassement des valeurs limites réglementaires, il y a contentieux, et du coup, derrière, c'est d'autres procédures bien plus lourdes à gérer et qui coûtent beaucoup d'argent. Donc, il vaut mieux mettre l'argent dans anticiper et améliorer le traitement, enfin améliorer du coup tous les dispositifs qui réduisent la pollution plutôt que de devoir payer des amendes qui sont quand même très très élevées. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va imager ces propos avec les réalités du monde industriel, son impact environnemental.
Voilà, alors je vais vous montrer deux exemples concrets de réduction d'impact environnemental. Ça concerne la cimenterie, notre cimenterie Vicat de Saint-Évrard, qui est une installation classée pour l'environnement soumise à l'autorisation. Voilà, donc vous voyez une vue de photos ici,
IED, ouais.
qui est soumise aussi à la directive IED, oui, bien sûr. Ça concerne les poussières d'une part et les NOx d'autre part. Alors, pour ce qui concerne les poussières, le site était équipé d'un électrophiltre jusqu'à 2024 inclus. Et on a remplacé, alors il y a plusieurs façons de filtrer les poussières dans le process cimentier, plusieurs technologies, mais il y en a deux principales. Hein, c'est l'électrophiltre qui est un principe par électrisation des particules, voilà. Et il y a filtre à manches, qui est une captation sur des manches, des grandes chaussettes, on va dire, de médias filtrés, hein, de tissus, enfin voilà, grosso modo pour résumer. Et donc l'électrophyte est en général un peu plus fragile à l'exploitation, un peu plus compliqué à maîtriser et un peu moins efficace que le filtre à manches. Donc, suite à des émissions quand même qui n'étaient pas au top, hein, on peut le dire, il était décidé d'investir dans un filtre à manches. La décision, c'est 2024, peut-être un peu avant. Et les travaux ont eu lieu, on va dire, entre fin 2024 et février 2025, pour un coût d'investissement qu'on vous montre à l'écran. Et qui induit, on va voir plus tard, une baisse conséquente des émissions de poussière. Et alors, il y a un autre bénéfice indirect, c'est que les électrophiles, pour bien fonctionner, ont d'une certaine humidité des gaz. Et donc, on injectait de l'eau, on pulvérisait de l'eau dans les gaz chauds. Alors, ce sont des gaz chauds, hein, donc l'eau est pulvérisée, se transforme en vapeur. Et on injectait de l'eau. Et donc, on a réduit, on a même éliminé quasiment, on réduit très fortement, en tout cas, cette injection d'eau. Donc, un bénéfice indirect a été une baisse de consommation d'eau assez significative pour le site. Voilà. Une autre, alors ça, c'est donc quelque chose dont on a mesuré l'impact concrètement sur une année complète en 2025. Et alors, il y a eu une autre avancée, une autre réduction d'émissions sur les NOx. On a amélioré le traitement. On a un traitement par des NOx qui est, je vais vous expliquer un peu plus tard ce que c'est. Et on a baissé la VLE de NOx, a été baissée sur notre proposition à la demande d'Adréal, et sur notre proposition de 450 à 400 mg par mètre cube. Et nous avons. Bon, le coût d'exploitation ici, ce n'est pas un coût d'investissement. Il n'y a pas eu d'investissement, mais disons qu'il y a un réactif qui est injecté, qui est cette solution ammoniacale, qui est une solution ammoniacale, et ça nous coûte au total 300 000 euros. Alors, l'amélioration représente pas 300 000 euros par an, mais on va dire au moins 10 à 20% de ce montant. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, je crois que c'est vous qui avez la
C'est
main.
vous qui l'avez. Pardon.
Voilà, alors ça, bon, c'est pour vous donner une idée de ce qu'est un filtre à manche. Alors, c'est des grosses installations, hein. Donc, physiquement, l'installation que vous voyez à gauche, vous voyez des gaines assez brillantes, c'est des coquilles d'alu sur des calorifuges, sur des gaines de gaz. Et donc, le filtre est derrière. Là, vous avez un gros ventilateur au sol, et le filtre à manche est derrière. Et vous avez le principe, alors, le principe du filtre à manche, c'est quand même assez classique en industrie, hein. C'est les grosses chaussettes de médias filtrants, de tissus techniques qui résistent aux températures en particulier. Et donc, l'air contenant, enfin, chargé en poussière est autour et on est en aspiration et l'air qui s'échappe à l'intérieur est propre. Voilà. Et après, ben, quand on colmate ces chaussettes, ces médias filtrants, il faut les décolmater. On injecte de l'air comprimé à certaines fréquences, et on récupère les poussières en bas dans la trémie, comme vous pouvez le voir. Voilà. Principe assez classique, hein. C'est pas très nouveau comme technologie. Alors, bon, là, on vous montre les émissions déclarées. Ça peut être des émissions déclarées sur GRED, d'ailleurs, par an du site. Voilà. Donc, bon, pour le site, les poussières fours représentent la quasi-totalité, enfin, dire 90% des émissions de poussière, hein, vu les flux. Donc, ben, écoutez, alors, bon, 2022, c'était pas très représentatif, parce que c'était vraiment une année où on a eu quelques incidents. C'est pas, mais bon, 2023, oui, si on compare ne serait-ce qu'à 2023, on a réduit par plus de 4, un facteur de plus de 4. Donc, on est autour de 2,5, 3 tonnes par an, alors qu'il y a quelques années, on était largement au-dessus de 15. Voilà, donc une amélioration significative d'émissions de poussière. Alors, bon,
Pardon.
J'ai pas le chiffre en termes de 5, j'ai pas la répartition, mais on va dire que la majeure partie de ces émissions de poussière, c'est des PM10, hein, ça c'est sûr. PM2,5, j'ai pas le chiffre en tête. Voilà. Alors, bon, pour ce qui concerne les NOx, bon, là, je vous ai mis comment les NOx se forment en cimenterie. C'est un phénomène de combustion à haute température qui oxyde l'azote de l'air de combustion, hein, qui est utilisé. La réduction se fait par un procédé de réduction non catalytique sélective, alors l'acronyme est en anglais, hein, et c'est en gros, concrètement, l'injection d'une solution ammoniacale à 24,5% dans le détail, en concentration, qui est pulvérisée en certains points en sortie du four dans les gaz chauds. Et les réactions, alors pour les chimistes, voilà les réactions principales qui sont mises en œuvre. Bon, ce n'est pas des réactions qui ont des rendements de 100%, évidemment, compte tenu des conditions de température, de cinétique, etc. Donc, c'est pas, on ne réduit pas. La théorie, c'est de réduire de 100%, mais ce n'est pas ce qui se passe en réel dans l'industrie. Voilà. Donc, ça a été mis en place mi-2024. La VLE a été abaissée en juin 2024. Et en année pleine 2025, vous voyez que, bon, on a baissé. Alors, c'est moins spectaculaire pour les poussières. Mais si on compare à 2023, on est à moins 20%, à 2024, moins 10% facilement. Voilà, deux applications récentes et concrètes qui contribuent, enfin, qui s'inscrivent dans les actions qu'on a vues du PPA pour les industries. Est-ce que vous avez,
Ouais, est-ce que vous avez des questions
voilà,
sur
pour ces
cette
exemples,
partie?
est-ce que vous avez des questions à ce stade?
Il y avait une question dans le chat de Monsieur Serrero, je crois. Ce document finit-il sur le site du PPA? Ce qu'on vous dit de ce document, c'est cette présentation-là?
C'est la présentation 1, je
Ok.
crois que vous avez répondu à la
Exact.
question.
Donc ça,
Non,
c'est.
la présentation générale, c'est-à-dire qui rappelle depuis 2006 les trois PPA, puis l'évolution, le fait en fait que la population, que la pollution de l'air baisse, dans les débats qui vont venir sur le fait que les va-et-vient se faisaient des feux, je pense que le fait que dire que ces mesures depuis 20 ans ont amélioré la qualité de vie du territoire, je pense d'avoir des éléments objectifs, c'est important. Donc c'est pour ça que je demande, est-ce que c'est cette présentation au début générale, est-ce qu'elle est rendue publique?
Ah oui, ça sera sur le site du PPA, sur le site du SPI, aucun souci, ça sera partagé. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette présentation qui illustre bien, hein, donc ça répond, ça rentre vraiment dans notre défi I1 là sur les sites IED pour réduire les émissions des gros émetteurs industriels. Là, c'était en image, ça nous paraissait important de vous partager ça. Donc ça, du coup, ce sera bah, utilisé par ATMO pour l'évaluation quantitative du PPA. Mais à l'ADREAL, on consolide un certain nombre d'améliorations comme ça qu'on suit dans notre métier avec les arrêtés, avec le suivi des industriels. Donc si vous n'avez pas de questions là-dessus, il y a une question peut-être.
Oui, moi je veux bien poser une question. En fait, comme c'est un peu le plus gros émetteur de poussière de l'agglomération, si je ne me trompe pas, quel impact en fait en moyenne sur l'agglomération, cette réduction par 4 des poussières, en fait? C'est les courbes qu'on a vues, c'est les objectifs qui sont atteints ou...
Donc là, c'est Madame Thatcher de Civipol qui a posé la question, qui a
Ouais.
pris la parole. Bah ça sera intégré, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, dans l'évaluation quantitative que va faire ATMO en 2026. C'est des gains directs en termes d'émissions. Tout à l'heure, j'ai montré que dans le PPA, il y avait des objectifs chiffrés en termes d'émissions par type de polluant, hein, je peux revenir un peu en arrière sur la présentation.
Oui. Parce que je me souviens, il y a 2 ans, c'était le filtre à manche sur le gros incinérateur industriel au sud de Grenoble. Et ça avait fait un effet important sur les NOx. Non, en tout cas, sur les. Ce n'est pas des précurseurs d'ozone, sur les. Non, sur les. Je ne sais plus sur quoi ça avait fait un effet très important, ces filtres à manche de l'incinérateur industriel. Pas la tâche d'ozone ou la tâche de...
bon, enfin, c'était efficace pour le sud agglo. Ben, on verra sur le bilan. On les a perdus. On les a perdus. Madame Priscaret, peut-être vous pouvez répondre pendant que tout le monde est parti. Vous vous
Oui.
souvenez l'effet du filtre à manche, c'était les COV, c'était l'ozone, c'était quoi le...
Alors, j'ai pas cette information en tête spécifiquement, mais
D'accord.
je pense que si c'est un filtre à manche, ça sera comme ce que Monsieur Fréry nous a expliqué. Ça a plutôt un impact sur les particules fines.
Oui.
Et du coup, pour compléter un petit peu la réponse de Madame Thiévent, Vika est un émetteur. Est une source ponctuelle importante. Par contre, comme vous le savez, hein, la majorité des particules fines sur le territoire du PPA provient avant tout du secteur résidentiel et des chauffages au bois individuels non performants. Donc ça aura un effet, cette action-là, et on va la quantifier de façon la plus précise possible dans le cadre de l'évaluation du PPA. Mais voilà, c'est aussi toutes les actions qui concernent le résidentiel qui vont avoir un impact sur la baisse des niveaux de particules qu'on mesure et qu'on respire.
Et les filtres à manche laissent passer quelle taille de particules?
Alors, je pense que ça dépend vraiment des installations et je préfère laisser Monsieur Fréry répondre, en tout cas pour son installation à lui. Et je
Oui,
pense qu'il n'y a
d'accord.
pas de, voilà, il n'y a pas de normes spécifiques. Ça dépend du moyen utilisé. Je pense qu'ils ont un petit souci de connexion. On va attendre encore quelques minutes.
Oui. La baisse des NOx, ça n'a pas d'effet, c'est pas un précurseur d'ozone, hein. Non, c'est pas du COV.
Si.
Il n'y a pas de
Si.
précurseur. Si.
Les NOx, les oxydes d'azote, sont un précurseur majeur de l'ozone.
Ben,
Tout
il
à
me
fait.
semble que c'est la tache d'ozone sur le sud agglo qu'on avait vu s'éclaircir en fait quand ils ont mis le filtre à manche.
Alors, ça. C'est compliqué
En été, au mois de juillet, août.
à dire ça parce que l'ozone est un donc, polluant secondaire qui est créé chimiquement dans l'atmosphère et la réaction de sa formation n'est pas du tout linéaire. Donc il faut vraiment agir fortement sur tous les précurseurs pour voir un effet concret sur les concentrations d'ozone. Donc je ne suis pas sûre pour le coup, en tout cas j'ai pas connaissance. Que la mise en place d'un filtre à manche de ce type-là ait un effet direct sur les concentrations d'ozone qu'on mesure, ça fait partie du panel
Oui.
d'action qui vise à diminuer les précurseurs et c'est bien là qu'il faut
Oui.
agir. Mais voilà, l'impact sur l'ozone, il est un peu plus complexe que ça, il n'est pas directement quantifiable juste avec une action de ce type-là.
Ouais, il m'avait semblé en
Bonjour.
regardant sur Air2Go. Oui,
Bonjour,
oui.
excusez-moi. Là, juste pour préciser une chose, le filtre à manche, c'est pour réduire les émissions de poussière.
Ouais.
Pour les NOx, c'est
Ah
l'injection
oui.
d'ammoniac. Donc,
D'accord.
ne pas faire l'amalgame, c'est deux installations différentes.
D'accord, vous avez raison, oui. Mais je pense qu'ils ont dû faire les deux en même temps aussi au sud et
Et
voilà.
les deux actions ont été présentées par M. Fréry, hein. Il y avait bien l'installation du filtre à manche et
Oui.
également la modification d'injection d'ammoniac pour réduire les émissions de NOx.
Oui, vous avez raison, c'est une autre action, oui.
Voilà.
D'accord, c'est peut-être l'effet de cette action-là qu'ils avaient dû faire en même temps là-bas, oui. Il y a une question dans le chat, si. Sur les aides pour financer les investissements, là.
Malheureusement, je ne saurais pas vous répondre. Je ne sais pas si quelqu'un de Vika est présent et a l'information.
C'est bizarre, on est quand même 63.
Vais essayer de joindre l'Adréal et je veux bien que
Oui.
vous patientez encore un petit moment.
Bonjour, Pierre Bonnet de Vika. Alors, je n'ai pas vu la question, c'est quoi?
Dans le chat, il y a
Mais
plusieurs questions
moi,
qu'on peut voir
je peux
avec, tout en
regarder.
bas de votre écran si vous cliquez sur chat.
Monsieur
CA chat.
Bonnet, pour vous répondre, donc c'est Madame Barbotin du Pays Boironnais qui demande si Vika a eu des aides pour financer les investissements que Monsieur Fréry nous a présentés.
Bon, il répondra, je ne sais rien.
D'accord.
Je ne sais pas répondre.
Excusez-nous. C'est moi qui ai fait une grosse manip en voulant vous partager le.
Pas de souci, on t'attendait, Corinne. On commence à s'inquiéter,
Justement.
mais c'est bon.
Il y a quand même une question.
C'est très gentil.
Il y avait une question dans le chat là sur est-ce que Vika a été subventionné pour faire cet investissement?
C'est ça.
Voilà.
Et j'ai dit que toi qui répondais.
C'est bien, ça permet de vous donner la parole à notre ancien président,
Bonjour Pierre.
M. Bonnet, qui a géré. Bon,
Bonjour.
désolé, j'ai voulu vous diffuser la petite vidéo, mais je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont vu parce qu'on l'a présenté plusieurs fois. Donc, c'était pour dire, c'était des outils qui étaient utilisables à diffuser dans vos réunions. Des petites capsules vidéo qu'on a fait qui durent pas très longtemps, 1 minute. Donc, celle qui est générale sur la qualité de l'air et santé, là, ça montre qu'on peut tous agir à notre niveau, que ce soit par notre mode de déplacement, par les produits ménagers qu'on va utiliser chez nous, par notre chauffage performant. La petite vidéo mobilité santé, c'est ce qu'on a fait aussi avec la ville de Grenoble et l'ARS, où on a montré qu'une mobilité active, c'était bon pour la santé. On parlait pas à sportif de haut niveau, on parlait vraiment dans les déplacements au quotidien. Et c'était bien d'y penser chacun, soit en privilégiant la marche ou le vélo, plutôt que de faire du statique ou son écran, sa voiture, et voilà. C'est une petite vidéo aussi qui est assez efficace. On en a une qui est en cours de montage sur le chauffage du bois. Elle va être diffusée à l'automne avant la prochaine saison de chauffe. Et puis, on a un petit PDF interactif qu'on a réalisé aussi avec le même visuel, avec on a essayé du coup de sur des périodes courtes de vidéos d'une minute d'attirer un peu l'attention et d'inciter au changement de comportement. Bon, désolé pour le louper, si j'arrive après, je le ferai mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat?
Dans le chat, je peux.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Sinon, on va passer la parole à Atmo, du coup, avec qui on travaille régulièrement. Hein, c'est vraiment un partenaire dans notre PPA. Ils avaient fait aussi plusieurs webinaires. Elle va en dire quelques mots, Prisca, pour présenter leurs outils. Et là, ça nous paraissait important, pendant ce webinaire, de vous partager aussi tout ce qu'ils peuvent mettre en avant, apporter, et aussi un certain nombre de vitrines intéressantes, y compris pour le monde industriel, parce que il y a des outils qui existent et qui sont finalement assez peu soit connus, soit utilisés du monde industriel. Je passe la parole, Prisca, du coup.
Oui, merci Corinne. Est-ce que c'est possible que je partage moi-même l'écran, tu penses? Je t'envoie une demande. Je sais pas si
J'arrête de
tu.
partager, tu prends la main normalement.
Oui. Alors.
Oh, ça sert à rien, je ne sais pas.
Est-ce que vous voyez mon écran?
C'est bon,
Oui,
Prisca.
c'est bon. Il n'y a pas trop de taches noires du zoom qui gênent la.
Ça va,
Ça
c'est acceptable.
marche. Donc du coup, oui, merci de me laisser la parole pour cette fin de webinaire. Donc je me représente rapidement, même si j'ai déjà pris la parole un petit peu plus tôt. Donc moi, je suis Prisca Ray, je suis correspondante du territoire Sud-Isère chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Donc rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Atmo, je m'attarderai pas, mais ça vaut le coup de représenter l'organisme. Donc Atmo, on est l'observatoire régional de la qualité de l'air. Donc on est une structure associative qui est agréée par l'État et par le préfet pour assurer la surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc notre principale mission, hein, c'est de surveiller la qualité de l'air avec différents polluants qui sont réglementés, mais aussi des polluants qui ne le sont pas encore. Donc on a tout un réseau de stations de mesure, un gros modèle aussi mathématique qui nous permet d'assurer cette surveillance. Et une autre de nos missions, c'est d'accompagner hein, les acteurs du territoire et notamment les acteurs du monde économique sur le volet air et sur toutes les actions qui sont en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air. Donc, pour faire ça, on a plusieurs programmes d'action chez nous qui sont spécifiquement dédiés aux industriels. Donc là, moi, j'ai choisi de vous en présenter trois. Donc, Air Attitude, qui est une plateforme collaborative qui recense les actions en faveur de la qualité de l'air, donc aussi bien à l'échelle individuelle que collective. On a aussi un dispositif qui s'appelle CASA, qui est un programme de suivi de la qualité de l'air en cas d'incident, accident industriel. Et enfin, on a une offre RSE pour vous proposer de vous accompagner aussi sur le volet R de votre stratégie RSE. Donc ça, c'est un outil qui est assez récent que je pensais aussi intéressant de vous présenter aujourd'hui. Alors, on a d'autres programmes d'action à destination du monde économique hein, chez Atmo, en particulier pour les chantiers, pour les suivis de carrière également, ou pour l'évaluation de l'impact des chaufferies bois. Donc là, je vous présenterai pas ça aujourd'hui. Par contre, si voilà, c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à revenir vers nous a posteriori. Donc, je commence par la plateforme Air Attitude, donc, qui est une plateforme en ligne, hein, une plateforme web collaborative qui vise à recenser du coup toutes les actions qui sont mises en place à l'échelle individuelle hein, par les particuliers, mais aussi à l'échelle collective, donc par les organisations, et des actions du coup qui sont en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air. Donc, c'est une plateforme qui existe depuis 2020 et qui est déployée grâce au soutien donc, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du préfet et de l'Agence régionale de santé. Du coup, donc cette plateforme, elle permet de recenser donc les actions à la fois individuelles. Donc ça permet à chacun de valoriser, de mettre en avant ce qu'on fait au quotidien, donc concernant toutes sortes d'actions de notre quotidien, concernant le chauffage, nos actions de mobilité, nos modes de consommation, etc. Et ça permet du coup à chacun de s'en inspirer. Et puis côté organisation, hein, donc c'est à destination des collectivités, des acteurs de l'État, notamment le PPA par exemple, les acteurs économiques ou d'autres associations, pour également valoriser ce qui est déjà fait au sein de ces organisations, de s'inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs et de quantifier tout ça de façon collective. Donc, l'idée derrière cette plateforme, c'est de pouvoir consulter, on a dit, hein, les initiatives qui sont mises en place par chacun et chacune, de partager l'engagement qui est déjà pris par chacun et de la valoriser, de quantifier l'impact de ces actions sur l'air, le climat et l'énergie. Hein, donc, quand on rentre une action sur la plateforme, il y a toutes des rubriques à remplir qui nous permettent après d'évaluer de façon quantitative les gains en matière d'émissions de polluants atmosphériques, mais aussi de gaz à effet de serre et de consommation énergétique pour les actions concernées. Et le cumul de tous ces gains permet d'avoir une jauge de gains qui sont générés par l'ensemble de la communauté Air Attitude. Voilà, donc un compteur général qui est alimenté par chacune des actions et qui permet un petit peu d'avoir une idée quantitative hein, en termes de gains d'émissions de tout ce qui est généré par ces actions. Donc les actions, elles peuvent concerner donc tout secteur d'activité et tout type d'activité, donc l'agriculture, les bâtiments, le chauffage, le secteur énergétique aussi, la santé. On a des actions qui concernent spécifiquement l'air intérieur. Et puis, pour chaque action, on peut spécifier si ce sont des actions qui sont mises en place pendant les épisodes de pollution. Voilà, et qui permet du coup, dans ces cas-là, de limiter la durée de l'épisode de pollution et puis d'apporter sa propre contribution en temps réel. Donc, quelques chiffres à vous donner. Donc, depuis 2020, hein, on a plus de 2600 actions citoyennes qui ont été recensées et plus de 230 actions issues des organisations, donc portées par plus de 128 organisations. Donc là, je vous ai mis un petit extrait de la plateforme qui concerne des actions du monde, enfin, qui concernent l'industrie, alors qui ne sont pas forcément directement portées par des industriels, mais en tout cas qui concernent bien ce secteur. Donc avec des fonds industrie, des fonds R industrie, des fonds R entreprise portés par les collectivités du Grand Annecy, par exemple. On a honnêtement, on a assez peu aujourd'hui d'actions qui ont été rentrées manuellement par les industriels eux-mêmes. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait vous parler de cette plateforme-là aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qui sont mises en place déjà au niveau industriel. Monsieur Fréry nous a donné un très bon exemple tout à l'heure. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi valoriser justement tout ce qui est déjà mis en place. Donc la plateforme Air Attitude est un moyen de le faire. Donc là, je vous ai juste donné deux exemples donc d'actions qui sont portées par le secteur du décolletage, donc le syndicat hein, du décolletage en Haute-Savoie. Donc avec, je crois, cette action, elle porte sur le remplacement de leurs solvants chlorés par des solvants qui ne contiennent plus de chlore. Et puis, une autre action qui est portée par la plateforme Osiris, donc la plateforme Roussillon, qui est une grosse zone d'activité aussi, voilà, qui a aussi mis en place des actions en faveur de la qualité de l'air. Donc j'en profite hein, pour Monsieur Fréry, on se permettra de revenir vers vous pour peut-être rajouter les actions que vous avez mentionnées tout à l'heure, à savoir le manche à air et puis la solution ammoniaquée qui permet de réduire les particules, les émissions de particules fines et de NOx. Ce sont des actions qui ont tout à fait leur place sur Air Attitude et qui permettent de valoriser ce que vous faites déjà.
Ouais, je me permets, je rebondis juste là-dessus, presque à 2 minutes. Quand vous aviez fait effectivement fin novembre, là, vous aviez fait un webinaire pour présenter Air Attitude et on avait convenu effectivement qu'il fallait qu'on relaye ça auprès du monde industriel parce que là, l'exemple de Vicat Saint-Égrève, il est vraiment notable et très intéressant. Il y a d'autres actions sur le territoire du PPA, mais globalement à l'échelle de la région, hein, t'en as cité une, t'en as même deux. Donc ça nous paraît intéressant que ça puisse être valorisé aussi sur cette plateforme et globalement ça rentre dans la dynamique et c'est pour ça qu'on avait dit qu'on resterait donc on présenterait ça plutôt que de faire un webinaire spécifique que pour les industriels, on l'intégrait dans notre webinaire global aujourd'hui et ça permettait de faire une bonne vitrine aussi, mais ouais, clairement l'action qui vient d'être présentée elle aurait toute sa place et c'est aussi inspirant pour d'autres acteurs de territoire, c'est pour ça que nous on souhaite partager l'action.
Tout à fait. Dans le cas du coup, quand une industrie hein, veut rajouter une action, donc il y a deux façons de le faire, soit en se créant un compte organisation et rajouter manuellement votre action. Donc voilà, il y a quelques rubriques à remplir. On peut aussi le faire pour vous si on récupère les éléments dont on a besoin en amont avec des échanges par mail ou par téléphone. Donc voilà, j'imagine que ça doit parler déjà à certains d'entre vous. Vous devez peut-être identifier déjà des actions qui sont mises en place. Donc suite à ce webinaire, n'hésitez pas à nous recontacter. On verra avec Madame Thiévent sous quel format. Mais pour qu'on puisse ajouter vos actions sur la plateforme et que ça vienne contribuer du coup à la jauge de gains d'émissions qui est évaluée collectivement. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça, la rubrique. Là, juste pour vous préciser, donc on a mis en place des widgets, hein, donc c'est des exports de l'affichage de la plateforme que vous pouvez après du coup extraire et venir afficher sur vos propres plateformes et propres médias, donc votre site web, vos réseaux sociaux, etc. Donc pareil, l'idée c'est toujours de valoriser les actions qui sont mises en place. Là, on va pas les passer là, mais du coup, vous aurez la présentation et ça vous permettra de voir ces petites vidéos de promotion un petit peu de ce service et de valorisation de ce qui peut se faire. Donc là, juste pour préciser, pour conclure sur Air Attitude. Donc Air Attitude, hein, c'est un outil qui s'intègre dans un panorama plus global d'outils qui vise à sensibiliser et à outiller voilà, chacun, chacune, et les acteurs aussi du territoire en matière de qualité de l'air. Donc là, vous les avez un petit peu à afficher, ces différents outils. Il y a bien sûr le site web d'Atmo, qui est un véritable centre de ressources sur la qualité de l'air. En complément du site de volontaires du PPA, bien sûr, qui est aussi très riche. On a également l'application Air2Go, qui est une application mobile, du coup, qui donne en temps réel l'indice de qualité de l'air sur la maille du territoire sur laquelle on se trouve. On a également la Captotec, ça me semblait intéressant de vous en parler, hein, la Captotec, donc c'est un dispositif de prêt de micro-capteurs. Alors, pour l'instant, uniquement de particules fines, à destination du grand public, mais aussi des entreprises. Donc, avec cet outil, on peut vraiment faire des beaux challenges, avec les collaborateurs d'une entreprise. On l'a déjà mis en place par le passé, ça a très bien fonctionné. Donc, les gens, empruntent un micro-capteur et repartent avec et font des mesures pendant plusieurs semaines, dans leur quotidien, aussi bien en air intérieur, dans leur logement ou dans leurs locaux de travail, qu'à l'extérieur, pendant leur déplacement domicile-travail, pendant leur randonnée ou leur balade en ville. C'est vraiment un outil qui est super intéressant et qui permet vraiment de sensibiliser, de monter en compétence sur la qualité de l'air. La plateforme Air Attitude dont j'ai parlé, et puis après, des plateformes de signalement de nuisance olfactive ou de signalement de présence d'ambroisie, hein, qui est une espèce très allergisante. Voilà un petit peu pour le panorama d'outils qu'on met à disposition. Donc là, j'ai fini pour Air Attitude. Maintenant, je vais vous parler de CASA, donc qui est notre programme de surveillance en situation accidentelle, donc vraiment dédié aux industriels. Donc juste pour rappel, mais vous êtes plus au courant que moi, hein, la région Auvergne-Rhône-Alpes est une région fortement industrialisée. Donc on est la région qui comporte le plus de sites classés Seveso en France. Donc c'est un vrai enjeu chez nous. Et du coup, donc suite à l'accident de Lubrizol, il y a une réglementation qui s'est mise en place. Et donc nous, on a développé un programme visant à accompagner les industriels pour leur permettre de répondre avant tout à la réglementation post-Lubrizol. Donc les installations concernées, hein, ce sont les installations ICPE classées Seveso, seuil haut et seuil bas. On a une approche multimilieu air au sol, puisqu'on travaille avec des bureaux d'études qui permettent d'adresser les autres matrices que nous, on n'adresse pas, hein, à savoir l'eau et les sols. Donc aujourd'hui, hein, c'est plus de 40 industriels qui adhèrent au programme CASA, donc qui est mis en place depuis 2002. Donc je crois qu'il y en a une dizaine en Isère. J'ai sorti la liste, donc je pourrais vous la donner si ça vous intéresse. Donc c'est un programme collaboratif, hein, qui est co-construit donc par Atmo avec qui fait intervenir bien sûr les services de l'État, donc l'ADREAL, l'ARS également, le SDIS, le service, hein, des pompiers, et d'autres acteurs importants du monde industriel comme France Chimie. Donc c'est un programme qui mobilise un panorama d'outils chez nous. Donc d'abord, donc la plateforme de signalement Signalair, hein, qui est aussi utilisée dans le cadre de ce programme, nos outils de modélisation et de dispersion atmosphérique qui permettent donc en cas d'accident de vraiment venir quantifier et caractériser l'impact réel de l'accident sur la qualité de l'air environnante. On a également des moyens matériels et des équipements adaptés, donc nos stations de mesure fixes, hein, qui sont déjà présents sur les territoires, qu'on peut venir compléter avec des moyens de mesure mobiles, hein, nos fameuses remorques qui sont sur roulettes et qui peuvent être placées de façon ponctuelle justement sur une zone à enjeu. On a également des moyens de mesure plus légers avec des préleveurs multipolluants. Et on a un lien direct du coup avec des laboratoires d'analyse, hein, à qui on envoie du coup nos prélèvements et qui réagissent très vite, qui nous renvoient les données analytiques. Et enfin, on a toute une équipe, hein, qui est dédiée avec notre service technique qui est mobilisé en cas d'accident, avec un service d'astreinte qui est joignable 24 heures sur 24 et qui peut du coup intervenir au plus rapidement sur place pour réaliser les mesures souhaitées. Donc voilà là des petits chiffres dont je vous ai déjà parlé. Donc 47 adhérents exactement aujourd'hui, donc 13 situés en Isère et je crois 10 sur le territoire du PPA. Donc on organise du coup dans le cadre de ce programme différentes sessions d'accompagnement et des réunions de travail. On participe bien sûr à des exercices, hein, qui sont coordonnés par l'ADREAL notamment. Et on a été déjà sollicité voilà, plus d'une dizaine de fois lors de cas réels. Et là, récemment, on a eu un gros cas de figure en fin d'année dernière. Donc, on a pu intervenir pour faire des mesures et répondre aux exigences réglementaires lors de cet accident en fin d'année. Voilà pour le programme CASA. Et enfin, je finis par notre offre visionnaire, qui est notre offre d'accompagnement RSE, donc qui vise à compléter la stratégie RSE qui est déjà développée par les entreprises par un volet R qui est souvent oublié. Et là, l'idée, du coup, c'est d'adresser à la fois les collaborateurs, mais aussi des thématiques spécifiques comme la mobilité, la gestion de l'air dans le bâtiment. La qualité de l'air intérieur notamment, et puis différentes activités de l'entreprise qui peuvent être source d'émissions. Du coup, donc on a dans le cadre de cette offre d'accompagnement RSE, on a développé quatre volets qui visent donc à sensibiliser, donc notamment les collaborateurs, à expérimenter la mesure notamment donc via le dispositif CaptoTech. Je rentre dans le détail juste après. On a aussi un volet diagnostic. Avec donc le volet R du bilan carbone, par exemple, hein, qui peut être ajouté. Et puis, on a un volet aussi Agir, qui vise vraiment à évaluer des actions qui sont déjà en place ou même à faire des recommandations sur des actions qui peuvent être mises en place au sein de l'entreprise selon, bien sûr, les procédés employés et puis selon le secteur d'activité. Donc, je donne quelques petits éléments complémentaires sur le volet sensibiliser. Donc, parmi les outils qu'on peut déployer dans ce cadre-là, il y a notre fresque de l'air, qui est un atelier interactif qui est basé sur, inspiré, on va dire, de la fresque du climat que vous connaissez peut-être déjà, mais qui est assez différente quand même, notamment sur le format. Elle se veut encore plus interactive que la fresque du climat, notre fresque de l'air. Donc, vous voyez une petite photo là qui vous montre que les gens sont debout et ils manipulent des magnettes hein, sur un tableau blanc pour venir former la fresque de l'air justement en ajoutant différents éléments au fur et à mesure. Donc, on part des situations problématiques sur la région et puis on vient affiner un petit peu le constat en parlant des polluants, en parlant de l'impact de la météo pour finir sur une dernière séquence qui concerne les actions, justement. Donc, c'est vraiment un atelier qui est super intéressant, qui fonctionne très bien et qui peut permettre bah, déjà de rentrer dans le sujet de la qualité de l'air et puis de repartir de l'atelier avec plein d'idées d'actions à mettre en place pour l'améliorer. On a aussi un quiz interactif qu'on peut déployer. Donc, c'est un format un peu plus léger que la fresque, hein. La fresque, ça dure entre 2 et 3 heures. Là, le quiz interactif, ça peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc, pareil, c'est un premier temps d'échange qui permet d'aborder le sujet et puis de répondre aux questions des participants. On a aussi une conférence un peu plus sur un format un peu plus classique hein, sur la qualité de l'air. Qui peut être adapté selon les thématiques souhaitées. Et puis enfin, on a aussi le film Notre ère. J'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Donc, c'est un petit documentaire qui fait 52 minutes, qui a été donc réalisé par Dorothée Adam et Mathieu Nabillot, auquel on a participé. Et du coup, c'est un super outil, je trouve, de sensibilisation, puisque on rentre sur le sujet qualité de l'air, mais via une autre approche. On suit en fait des sportifs de haut niveau qui vont à travers la CaptoTech, à travers des rencontres avec les experts, avec des élus, avec des associations, et bah, appréhender le sujet de la qualité de l'air et un petit peu comprendre comment ça fonctionne et comment ça vient impacter les environnements de montagne, notamment chez nous. Donc c'est un super outil. Sur le volet expérimenté, donc on peut proposer donc des challenges micro-capteurs. Hein, donc c'est une adaptation de la CaptoTech hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais adaptée donc à l'entreprise avec un format un peu de challenge où chaque collaborateur bah, se challenge entre eux. On organise des temps de rencontre avant et après. Et l'idée, c'est voilà, c'est de les pousser à faire plein de mesures et à comprendre vraiment ce qui se passe dans leur quotidien en matière de qualité de l'air. On peut également proposer des balades thématiques, balades urbaines ou dans des parcs. Voilà, donc là, c'est un format aussi intéressant puisqu'on est en mouvement et puis chaque point d'arrêt et l'occasion de d'aborder un sujet en lien avec la qualité de l'air. Donc ça, c'est des formats qui marchent très bien. On en a fait une rien qu'hier au Jardin de Ville de Grenoble. Donc voilà, c'est aussi des formats intéressants. Et puis, on peut également pousser un petit peu le sujet en allant un petit peu plus loin sur la mesure et en installant cette fois un micro-capteur fixe, une micro-station sur l'entreprise. Ou même enfin, aux abords de l'entreprise. Donc là, ça permet de rentrer un petit peu plus dans ce que c'est que la mesure de la qualité de l'air. Donc là, on a vraiment une microstation qui fait de la mesure en continu et qui permet voilà, d'ancrer un peu le sujet air dans le quotidien de l'entreprise. On peut, par exemple, afficher les mesures sur l'écran d'accueil dans le hall d'entrée. Il y a plein de choses à imaginer avec ces microcapteurs. Donc là, le volet diagnostic air, je vous en... Oui.
Encore 2 minutes, c'est comme ça, après on peut prendre quelques questions générales.
Oui, ça marche. Bah, j'ai terminé dans tous les cas. Donc, le volet R du bilan carbone, hein, avec l'évaluation concrètement de l'impact dans l'entreprise en termes d'émissions de gaz à effet de serre pardon, et de polluants atmosphériques surtout. Et puis, le volet agir, donc là, il est un peu à façon. Il a imaginé avec chaque entreprise, mais on peut aller encore plus loin dans l'installation de microcapteurs, donc avec ce qu'on appelle des observatoires microcapteurs. Donc là, on déploie plusieurs microcapteurs fixes chez les collaborateurs ou autour de l'entreprise. Et puis, on a plein d'autres actions possibles à imaginer avec vous qui concernent plan de mobilité, les changements de mode de chauffage, des suivis de chantier, des suivis de carrière, etc. Donc là, je vous laisserai regarder un petit peu un petit extrait d'un reportage sur BFM Lyon. Et puis là, vous avez le retour aussi de bah, d'industriels avec qui on travaille déjà, donc le Situm Nord-Isère, Dalkia et Total Énergie. Voilà pour moi.
Super, t'as réussi à tenir, relever le défi de présenter autant de différents types de temps, d'être très clair et efficace. Merci, bravo.
Alors moi, je voudrais juste donner un tour d'expérience sur la fresque de l'air et le quiz interactif, puisque une de nos cimenteries dans l'Allier a contacté, enfin a demandé à Atmohora de fournir ses prestations, et ils en ont été très satisfaits. Ils ont fait passer quasiment tout le personnel sur ces deux ateliers de sensibilisation, fresque de l'air et quiz interactif. Et j'en ai été très satisfait. Donc moi, Madame Rey, ça m'intéresse de généraliser ça éventuellement à d'autres sites. Donc si vous pouvez m'envoyer quelque chose sur le sujet pour que je puisse commencer à en parler à nos autres sites, ça m'intéresserait.
Ben merci beaucoup pour ce retour et avec plaisir pour continuer à déployer ça avec vous.
C'est vraiment l'objectif de ce webinaire, hein, c'était de favoriser l'arrivée en réseau. Enfin, avec Marion aussi, quand on a bâti ce PPA, on s'est dit qu'on va pas tout réinventer, on va vraiment se baser sur ce qui marche bien. Et l'attitude pour nous, c'était aussi bien de valoriser, de mettre en avant. C'est presque qualité de l'air, on l'a aussi financé, on en a fait une aussi avec des associations, ça a très bien marché. Donc, et pareil, les microcapteurs aussi, ça marche très bien. Et donc on en a financé une partie, hein, avec
Oui.
des budgets des services de l'État. Donc c'est plein d'outils. On a voulu profiter de ce webinaire pour mettre tout ça en commun et qu'on avance tous main dans la main là-dessus. Donc merci pour cette présentation. Et dans le chat, il y avait des questions, enfin quelqu'un qui voulait un contact, tu as tout, donc j'ai mis tes coordonnées. Prisca, après toi tu
Bon.
relayeras avec
T'as bien
les
fait, c'est parfait. Merci.
questions. Et
Oui.
après ce webinaire, on partagera la vidéo et du coup vous aurez aussi les coordonnées de Prisca. Et bon, enfin c'est PRAY@atmo-en-app, voilà, comme tous les autres contacts que vous aviez avant. Mais on partagera ça, hein, c'était vraiment l'objectif de ce webinaire.
Je me souviens que le micro-capteur que j'avais eu, j'étais passée dans toutes les pièces, enfin des appartements, et j'avais trouvé ça super parce qu'on voyait les COV aussi, les
Alors,
poussières
pas
fines.
celui-là. Pour l'instant, c'est que les particules fines avec la captothèque.
Oui, d'accord. Mais celui qu'on allait chercher, c'était un peu plus, c'est ça? Celui
Alors
qu'on
oui,
allait chercher.
si vous aviez un
OK.
autre appareil supplémentaire qui mesure les COV, oui, ça peut être combiné, mais c'est un prêt différent qui n'est pas géré par nous en tout cas. Mais oui, tout à fait.
D'accord. Merci.
Merci pour ce retour.
Oui, vous avez répondu, vous me posez la question de la RSE, mais est-ce que quand dans l'entreprise, vous travaillez avec les CSE, les comités, parce que je suis AXE, là, le groupement d'employeurs qui est basé à Montbono, et je ne sais pas, est-ce que qui peut de temps en temps parfois organiser des formations en direction des personnels de différents CSE. Et est-ce que vous racontez concerne aussi l'équivalent des CSE, mais encore dans les collectivités, que ce soit les départements, les communes et les intercommunalités?
Oui.
Est-ce qu'il y a des actions en direction en fait des personnels de ces organisations?
Oui, merci pour votre question. Tout à fait. Donc, l'offre RSE en soi, c'est des outils, hein, mais qu'on peut mettre à disposition, enfin, pas forcément dans le cadre de RSE spécifiquement. Donc, oui, les CSE pour moi sont tout à fait peuvent être totalement la cible de ces animations. Donc avec grand plaisir pour réfléchir avec vous à ça. Donc pour moi, ça rentre complètement dans la mission du CSE aussi. On l'a pas forcément déjà fait, mais voilà, ça fait partie des services et des missions qui
Je
relèvent
dirais
de ça.
peut-être, je suis au CA d'accès, donc où il y a un certain nombre de CSE qui sont adhérents pour les salariés là, qui les font vivre. Je dirais effectivement peut-être de se rapprocher d'Atmo pour imaginer des actions, puisqu'on a
Tout à
assez à
fait.
bientôt. Et juste une question pratique. Imaginons, moi je suis dans une association avec Madame Dominique Tature. Sur notre site internet, on mettrait les informations d'Atmo en disant avec le suivi de pollution. Est-ce que c'est une action qui peut figurer là où vous avez indiqué? Et est-ce que ça vaut la peine qu'on vous le signale? Parce que là, je connais une association sur Grenoble qui le fait déjà. Mais je ne pense pas qu'elle le soit. Je ne pense pas que CLUC vous connaissiez. CLUC, Comité de liaison des unions de quartier de Grenoble. Il y a 17 unions de quartier. Donc, c'est sur leur page d'accueil. Vous avez de façon permanente l'indication de la pollution de l'air sur Grenoble
C'est le
avec.
fameux widget de l'indice Atmo. Ouais, ben alors ça, tout à fait. C'est une action qui, je pense, existe déjà sur le site. Par contre, c'est intéressant de rajouter la contribution de cette association spécifique à cette
Donc, je
action-là.
leur dirais
Comme
que,
ça, voilà, ça
d'accord.
augmente
Et
la
nous, on
jauge.
le fera. Et donc, nous, on ne l'a pas encore fait alors qu'on suit le PPA depuis des années. On pourra le mettre sur notre site à
Bien
nous.
sûr. Tout à fait.
Merci.
N'hésitez pas à revenir vers moi là-dessus. Et juste pour répondre à la deuxième partie de votre question, tout à fait, ces animations, on les déploie aussi auprès des services des collectivités, donc aussi bien les élus que les agents des services techniques. Donc on a d'ailleurs, c'était vraiment la cible prioritaire à la base, hein, de cette fresque de l'air. C'était avant tout les services techniques des collectivités. Et on l'a déployé énormément au cours des dernières années auprès de différentes collectivités. Et ça marche aussi très, très bien. Donc on a pas mal d'actions à destination de ces publics-là. Ouais.
Donc, je voulais poser une question sur CASA. Alors, j'ai été jeter un coup d'œil, hein. Une fois que vous avez fait tout le travail de recensement, d'analyse, d'étude de l'incident, en fait, la donnée grand public, vous l'envoyez sur le site Atmo Alerte, c'est ça? C'est ça que nous, le public, on peut regarder.
Alors oui, ça dépend des incidents, mais en tout cas, oui, on produit toujours un rapport d'incident qui fait le bilan. Alors ça, c'est coordonné aussi par l'ADREAL, hein. L'ADREAL est impliqué à chaque fois dans ces cas-là. Donc il y a en effet une grande partie des informations qui sont après communiquées. Je te laisse compléter, Corinne, peut-être.
Non, mais enfin, c'était aussi important que tu présentes ça parce que ça concerne quand même vraiment bien aussi toute la partie réseau et gros acteurs industriels. Donc c'était bien. Enfin, on en avait jamais parlé dans le cadre des réunions du PPA, donc je trouve que c'était aussi une bonne vitrine. Et je rebondis juste sur une remarque qu'a fait Jacques-Nicolas et on aurait pu aussi le citer à la fin, tu sais, c'est le fameux projet Oxygène pour la formation des nouveaux élus.
Oui,
Voilà.
bah, tout à fait, je peux en dire deux mots rapidement. Donc là,
Voilà. C'est une démarche
sur
intéressante
les...
qu'on est associé.
Oui, tout à fait. Sur les 3 prochaines années, grâce à l'implication de plein d'acteurs, donc notamment les DREAL, mais l'ADEME aussi, les collectivités du territoire, on va mettre en place un projet qui s'appelle Oxygène, qui vise à déployer tous ces outils que je vous ai présentés, donc là dans le cadre RSE, mais ces outils qui existent par ailleurs. Et on va les déployer spécifiquement auprès des nouveaux élus des territoires. Donc ça va être vraiment un fort moyen de les sensibiliser et de les faire monter en compétence sur ce sujet pour qu'après ils puissent appliquer tous ces enseignements dans leur politique publique. Donc voilà, je pourrais vous en dire plus. Si jamais ça vous intéresse, ce projet Oxygène, on a une page dédiée sur notre site web. Je pourrais vous rajouter le lien dans la documentation que Corinne vous enverra suite au webinaire.
Ouais, ça, je le renvoie les
Très bien.
J'ai vu qu'il y avait juste, j'en profite juste pour remercier Mathieu Gélis de l'ADREAM au siège qui nous aide beaucoup dans l'accompagnement sur les territoires des PPA et qui coordonne un peu toutes les actions, parce qu'il y a plusieurs PPA dans la région. Je n'avais pas vu au début qu'il était là, mais merci pour son soutien. Et si vous avez des questions plus précises, c'est vraiment lui qui peut nous relayer et nous faire passer pas mal d'infos dans ses missions de coordination et de. Tu veux dire un petit mot, Mathieu, ou... T'as pas ton micro. Ouais.
Non, c'est oui. Oui, non, mais j'étais très content de participer à ce GT. J'en avais fait un il y a un petit temps que je l'ai fait pas. Malheureusement, je ne peux pas les faire tous sur tous les territoires PPA. Mais je trouve très intéressant le partage qu'il y a eu avec les différentes présentations des industriels aussi qui montrent, qui font des efforts sur leurs installations, qui montrent les gains en émissions. Donc, je suis toujours très content de participer à ces GT. Merci à toi, Corinne, pour l'organisation. Parce que je pense que pour toi, maintenant que Marion Delhomme n'est plus présente, ça doit être pas évident pour gérer tout ce que tu as à gérer. Et donc, vraiment ravi d'avoir participé à ce GT. Je n'hésiterai pas à participer au suivant.
Merci. Pardon.
Vous laissez le mot de la fin.
Ouais, écoutez, merci à tous d'avoir participé. 17, on a faim, donc on va aller déjeuner. Merci encore une fois pour vos questions. Et puis on va vous diffuser, vous aurez accès à la présentation et je vous invite à en faire part au niveau des industriels, dans vos organisations internes pour toutes ces informations riches et éventuellement pour vous. Voilà, merci à vous et bonne fin de journée, bon week-end.
Merci, bon week-end à tous, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.